Non, surtout ils avaient terminé. Bien, merci d'être là tous pour écouter une conférence sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, vous en avez certainement entendu parler. L'État français a débloqué des fonds conséquents pour le développement de ce vecteur énergétique, hein, France 2030, environ 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Donc vous avez au moins entendu parler de l'hydrogène en termes hydrogène. Maintenant, qu'est-ce que l'hydrogène? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Madame Nathalie Locke, qui est ici de l'AER, va vous expliquer quelle est sa fonction, bien entendu, et également quels sont les atouts de ce vecteur énergétique.
Il faut que je parle fort, j'ai de la voix. Mais...
Alors, moi j'ai tendance à parler fort naturellement quand je suis en amphi, mais ouais, je pense qu'il faut...
Alors,
oui,
d'accord, ok.
Il n'y a pas de micro. Je peux aller voir sur le micro.
Oui. Bien, bonjour à tout le monde. Il y a un certain nombre d'années que nous avons des bonnes relations avec les IREM et on a souhaité vous présenter cette conférence. Alors, on a un certain nombre d'associations. Il y a la Société française d'énergie nucléaire, que vous connaissez, la Société sur le climat et l'Association des retraités du CEA. On présente cette conférence pour vous. Alors, on voudrait, avant de passer la parole à Nathalie Locke, demander à notre ami Bruno, on a inscrit cette conférence dans le cadre de... de l'IESF, mais je vais vous en dire un peu plus long.
Oui, donc je fais partie de l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, une association qui réunit toutes les alumni des écoles d'ingénieurs en France. Hein. C'est 150 associations d'ingénieurs et plus d'un million d'ingénieurs en France. Et plus de 200 000 scientifiques. Donc il y a 20 USF régionales, ici c'est l'USF Bourgogne-Franche-Comté, on est en train de fusionner. Et donc l'USF organise chaque année ce qu'ils appellent les journées nationales de l'ingénieur, c'est-à-dire une quinzaine, où il y a des conférences sur les thèmes scientifiques et techniques. Et donc j'ai profité de cette occasion et de cette conférence pour la labelliser par ces journées nationales de l'ingénieur. Donc, cette conférence est doublement labellisée, bien entendu organisée par la SFEN, mais aussi par des ingénieurs et scientifiques de France. Voilà.
Merci. Bon, Nathalie Locke est une ancienne de Dijon, puisqu'elle a fait ses études à Carnot, et puis elle a démarré dans la filière hydrogène très tôt. Donc aujourd'hui, elle va nous dire tout ce qu'elle sait sur ce sujet. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Nathalie, à vous.
Voilà, bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Nathalie Locke, j'ai une formation d'ingénieur. Alors je vais vous raconter comment je suis tombée dans l'hydrogène, ça ne va pas prendre trop de temps, mais vous savez qu'aujourd'hui tout le monde parle d'hydrogène et qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans en arrière, tout le monde pensait que c'était pour dans très longtemps et on y est, et on y est même très fort. Donc en fait, moi, après une mission dans des emplois dans le privé, dans l'armement défense, puis après dans le conseil en entreprise, j'ai rejoint l'AER, c'est l'agence économique régionale. Alors au départ, c'était de Franche-Comté et maintenant de Bourgogne-Franche-Comté. Et je travaillais, comme j'avais beaucoup travaillé pour PSA, sur l'automobile et la mobilité. Et puis un jour, dans le cadre de mon travail, j'ai trouvé un groupe de travail, justement, où étaient présents des chercheurs, des entreprises, des ingénieurs, des gens comme moi du développement économique, et on réfléchissait à comment développer cette filière sur notre territoire régional. Et c'était en 2008, il y a presque 14 ans maintenant, et en fait, quelque part, je me suis dit, mais il y a vraiment des choses à faire sur cette molécule, on va le découvrir, je vais essayer d'être plutôt dynamique dans ma présentation et je ferai des pauses pour que vous posiez des questions. Si vraiment il y en a une qui vous brûle, vous levez le doigt et puis je peux même vous passer la parole parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'hydrogène. Donc aujourd'hui, je suis chef de projet hydrogène à l'agence économique Et on peut dire que, à la fois pour des mauvaises raisons, les circonstances actuelles, mais aussi des bonnes raisons, aujourd'hui l'hydrogène est reconnu comme un élément clé de la transition énergétique. Alors je ne veux pas dire réchauffement climatique, mais dérèglement climatique que l'on connaît. Et mardi, j'étais à l'Assemblée nationale avec des experts. Il y a un groupe de travail aussi à l'Assemblée qui travaille sur le déploiement et le développement de l'hydrogène en France. Et on était en train de se dire, finalement, aujourd'hui, tout s'accélère parce que on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement en énergie, mais également, on ne peut plus revenir en arrière au niveau du réchauffement de la planète. On table sur les plus 3 degrés. On ne pourra pas revenir en arrière. Il va y avoir aussi des conséquences. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait certainement des erreurs collectives dans le passé qu'il faut laisser tomber, bien au contraire. Alors moi, comme je disais à M. Pesquer, en attendant devant l'amphi, aujourd'hui j'ai l'âge que j'ai, mais c'est surtout vous qui allez voir ce que ça va apporter en termes de transition énergétique, mais aussi en termes d'emploi, en termes d'économie. Aujourd'hui, il y a énormément d'emplois qui vont se générer sur l'hydrogène. Je vous donnerai quelques chiffres après. Alors je vois beaucoup de garçons, mais il faut savoir que dans l'hydrogène, c'est quand même assez remarquable, c'est assez mixte. C'est-à-dire qu'il y a des filles et des garçons, des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur. Et il n'y a pas... moi, je n'ai jamais rencontré de problème par rapport à ma position sur l'hydrogène dans ce monde de l'hydrogène qui est de plus en plus important et de plus en plus reconnu. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez tous le même niveau de connaissance sur la filière hydrogène et sur l'hydrogène. Vous pouvez être néophyte, vous avez peut-être, c'est intergénérationnel ici, donc il y a certainement des gens qui ont travaillé dans ces domaines ou en ont entendu parler par le passé proche. Et puis vous, je ne sais pas, mais vous me le direz, si vous avez déjà abordé ces sujets ou pas du tout dans vos cursus. Alors l'hydrogène, j'appuie pas sur le bon bouton, voilà, c'est pas nouveau. Alors l'hydrogène, on y reviendra, mais c'est l'élément le plus répandu dans l'univers. D'ailleurs, il y a l'hydrogène et le dihydrogène. Une brève historique de la pile à combustible. La pile à combustible, c'est ce qui sert à faire de l'électricité à partir de l'hydrogène. Dès 1783, Lavoisier, donc un chercheur français, découvre ce qu'on appelle l'air inflammable. C'est-à-dire qu'avec une certaine température, on arrivait à inflammer l'oxygène de l'air et en apportant... une certaine quantité d'éléments en combustion à très haute température, on arrivait quelque part à synthétiser de l'eau. Bon, il n'avait pas encore vu qu'il apportait aussi autre chose, notamment des électrons, mais c'était vraiment la première observation de ce qu'on pouvait appeler par la suite la synthèse de l'eau. Mais quand on fait la synthèse de l'eau, on ne fait pas que la synthèse de l'eau, on produit aussi de la chaleur et de l'électricité, c'est le principe de la pile à combustible. Et quand on utilise une pile à combustible, l'eau, c'est l'effluent dont on n'a pas vraiment besoin, mais la chaleur, tout autant que l'électricité, sont intéressants. En 1839, cette fois, Christian Schönbein, un Allemand, va commencer de dire, on va essayer de voir comment on peut refaire ce que faisait Lavoisier avec des branches et du feu, etc., mais de manière un peu plus... différentes, et il a constitué une première pile à combustible. Je vous montrerai comment c'est constitué. Et effectivement, il obtenait de l'eau, de la chaleur et de l'électricité. Le premier modèle vraiment technique, donc William Grove, donc lui c'était un Anglais, 1839-1842. On considère que c'est vraiment la première pile qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, sauf que c'était très gros et pas du tout avec des rendements intéressants. Donc, on a continué. En 1953, un prototype de 1 kW, 5 kW en 1959. Et ce prototype est allé sur la mission Apollo, notamment Apollo 13. Et 13, elle est connue parce qu'ils ont eu quelques petits soucis. Et le mythe, premier mythe de l'hydrogène, c'est que c'est à cause de la pile à combustible. Faux. Je vous explique, ça va être très simple. Effectivement, pour partir sur la Lune, il fallait avoir de l'énergie à bord pour pouvoir alimenter les ordinateurs, enfin tout ce qu'il y avait, voilà. Et les batteries n'auraient pas suffi déjà pour emporter suffisamment d'énergie. Donc ils avaient emporté de l'hydrogène et de l'oxygène pour, et des piles à combustible pour faire de l'électricité à bord. Mais l'oxygène servait aussi pour les astronautes, pour respirer. Sauf qu'il y a un petit micrométéorite qui a percé le réservoir d'oxygène. Problème. Donc il a fallu choisir, donc ça a été tout vu. Ils ont coupé l'électricité, ils ont bloqué la pile, ils ont laissé respirer les astronautes. Et ils ont juste gardé, et c'était le grand miracle, hein, parce que assez d'oxygène pour pouvoir réalimenter la pile avec de l'oxygène et de l'hydrogène au moment de revenir sur Terre. Mais ce n'est pas la pile du tout, c'est ce micrométéorite. Voilà. Plus d'un siècle s'est écoulé entre la réalisation du premier module de pile à combustible, et, mais ça n'a pas vraiment pris parce que le coût des matériaux utilisés dans la pile était élevé par rapport à la solution charbon. Les fossiles, finalement, on en avait autant qu'on voulait. Hein. Les fossiles, c'est le gaz, le charbon, le pétrole, qui, au passage, sont de la forêt primaire, donc de la biomasse fossilisée sous différentes formes. Hein, putréfié, ça fait le pétrole, brûlé, ça fait le charbon, et puis, fermenté, ça fait le gaz. En gros, c'est ça. Et c'est des forêts primaires, par des effets géologiques, il n'y avait pas d'humains sur Terre, qui ont été enterrées comme ça, et qui, en fait, représentaient une captation de carbone sur des millions d'années. Et nous, quand on va chercher les fossiles dans le sol, ben, on déstocke le carbone en cassant à nouveau les chaînes de C, H et O. Hein, biomasse, c'est C, H et O, les trois atomes. Et on récupère l'énergie, mais on lâche le CO2. Et on a fait ça en 100 ans, alors que tous ces fossiles, ils ont été stockés pendant des millions d'années. Alors, il en reste encore beaucoup, mais peut-être que il faut essayer absolument de ralentir, parce que sinon, voilà. Ça, c'est des chiffres, on regarde, on voit très bien ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être d'autres éléments aussi qui fait qu'il y a un réchauffement climatique. Hein. Il n'y a pas que le CO2 qui est gaz à effet de serre, mais néanmoins, c'est très important. Il y a également qu'on avait besoin de technologies de précision. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. Hein. Et puis, on a développé beaucoup les stockages sous autres formes, et notamment les stockages générateurs d'énergie électrique type batterie. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de développer cette énergie qu'est l'hydrogène. Alors là, on va passer très vite, je ne vous fais pas injure. On dit hydrogène, mais en fait, on parle du dihydrogène, donc deux atomes d'hydrogène et, pour faire une molécule de dihydrogène, H2. Par abus de langage, on parle tout le temps d'hydrogène. La consommation-production française d'hydrogène aujourd'hui, c'est alors 900 000 tonnes, on va dire c'est 1 million de tonnes par an, mais c'est de l'hydrogène carboné. L'hydrogène, il y a plusieurs façons d'aller le chercher, le dihydrogène ou la molécule H. Soit vous allez le chercher dans des chaînes carbonées type CHO, donc dans les fossiles, ou dans la biomasse. Mais on va voir qu'en biomasse, on arrive à faire des choses intéressantes. Ou alors, vous allez le chercher là où il n'y a pas de carbone, c'est H2O. Donc là, vous allez casser la molécule de H2O, vous allez récupérer de l'oxygène et de l'hydrogène. Et ça s'appelle l'électrolyse. Donc regardez bien, vous avez H2O, vous avez hydrogène, oxygène, mais vous apportez de l'électricité. Et la pile à combustible, elle fait exactement l'inverse. C'est le contraire de la synthèse de l'eau. De l'électrolyse de l'eau, elle fait la synthèse de l'eau. Aujourd'hui, malheureusement, cet hydrogène, il est fabriqué par des procédés qui émettent du CO2, essentiellement. 76% à partir de gaz fossiles, 23% encore dans le monde hein, à partir de charbon. 60% est généré par des processus industriels massifs et pas locaux. Et ça alimente.
Est-ce que vous pouvez mettre en plein micro?
Ah, pardon. Oui, c'est là. Pardon. Voilà. Parfait. Fallait me le dire. Fallait me le dire. J'ai jamais mangé personne. Il a fallu que ça soit écrit tout petit pour qu'ils le disent. Alors, donc c'est responsable de 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas énorme, mais c'est énorme quand même. Bon, après, je ne vais pas trop vous charger avec des chiffres, vous me reposerez des questions. Je vais quand même passer directement au slide suivant pour donner l'idée de pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène. Il est le plus abondant dans l'univers. En fait, alors j'étais pas là pour voir, ni vous non plus, mais à l'origine, il n'y aurait eu que de l'hydrogène. Big Bang, il y aurait eu d'autres choses qui seraient apparues à ce moment-là. Mais c'est encore, selon les estimations, 75% en masse de l'univers et 92% en nombre d'atomes. Donc je vous signale que dans cette salle, essentiellement, est présent de l'hydrogène. Dans les murs, dans le bois qui sert de bureau, là, et vous-même, vous êtes constitué énormément d'hydrogène, puisque avec de l'eau dans le corps. C'est l'élément qui est constitutif de l'univers, quasiment. Il a une très grande densité énergétique. Le chiffre qu'il faut retenir, retrouver, 33 kWh par kilo. C'est 3 fois plus que l'essence et c'est 100 fois plus que les accumulateurs électrochimiques au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire une batterie. Les batteries solides qui vont sortir, ce qu'on appelle la génération 4, elles vont sortir d'ici 5-6 ans pour de la mobilité un peu plus longue distance. Elles sont en développement aujourd'hui, elles ne sont pas industrialisées. Et il n'est pas à l'état naturel sur Terre. Je mets une petite parenthèse quand même. Il n'est pas à l'état naturel dans l'atmosphère parce qu'il est tellement léger. Un atome d'hydrogène, c'est un proton, un neutron, un électron. Donc vous multipliez par deux pour avoir ce qu'est une molécule de dihydrogène. C'est extrêmement léger. Et tout comme l'hélium, il ne reste pas à la surface de la Terre, il est éjecté par la force centrifuge dans l'univers. Donc quand on lâche de l'hydrogène, il part. Par contre, on parle aujourd'hui d'hydrogène naturel dans le sol. Alors, il suffit de faire très profondément, des trous jusqu'à 20-25 km. Et là, on ne sait pas encore exactement ce qui se passe, c'est encore à l'étude, mais on va voir sortir dans certains milieux géophysiques de l'hydrogène et de l'hélium en proportion variable. On pense que c'est un phénomène naturel de thermolyse, que cet hydrogène, en fait, qui est le plus conséquent dans l'univers et donc dans la planète Terre, est piégé par la structure mère de la Terre et va pouvoir ressortir. Alors, il y a des endroits où cet hydrogène est très, très fréquent, et notamment en France, alors on en a par exemple beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté. Une information que vous n'avez peut-être pas, c'est que le premier forage pour tester les émissions, là, ce qui sort de ce forage hydrogène et hélium, ils sont souvent ensemble d'ailleurs, est à Fontbouillant à côté de Nevers. Et il y en a un deuxième qui a été autorisé par l'État, puisque le sous-sol appartient à l'exploitation à l'État, à côté de Chalon-sur-Saône. Donc on est dans une région où il y a beaucoup, mais également vous en avez en Occitanie, enfin ça fait une sorte d'arc comme ça sur la France. Et il y a des pays où ils regorgent d'hydrogène naturel. Il y en aurait en Russie, on ne peut pas les voir pour l'instant, et il y en a c'est sûr beaucoup au Mali. Alors en général les exploitations, qu'on envisage pour l'avenir, c'est pas tant pour l'hydrogène que pour l'hélium qui coûte encore plus cher à fabriquer, très compliqué, dont on a besoin notamment dans les IRM, dans les mondes médicaux et dans la chimie en général, et pour certains procédés. Alors l'hydrogène, on dit toujours, c'est un vecteur énergétique, donc un vecteur énergétique c'est quelque chose qui sert à temporiser l'usage, c'est-à-dire du stockage intermédiaire, mais c'est pas que ça. Ça peut être un intrant, c'est un intrant dans le raffinage des produits pétroliers, les carburants, la fabrication aussi de e-fuel, de e-carburant, l'ammoniac qui intervient notamment dans la fabrication des engrais ou dans le méthanol qui est une molécule de base qui intervient beaucoup dans la chimie. Et là, on a besoin juste de molécules d'hydrogène. Donc comme il n'existe pas, il faut le fabriquer. Il sert aussi donc vecteur d'intégration énergétique, donc c'est ce que je vous disais. On va fabriquer de l'hydrogène par électrolyse à partir des énergies renouvelables, les ENR. Et on va par exemple faire ça quand il y a du soleil mais qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, quand il y a du vent mais qu'on n'a pas besoin de, de cette énergie électrique à l'instant T. On va fabriquer avec cette électricité de l'hydrogène par électrolyse. Et quand on aura besoin d'électricité ou de plus d'électricité, ben on pourra l'utiliser en le restituant grâce à une pile à combustible. Donc l'hydrogène vert peut être associé à une pile à combustible, on en a parlé. Et quand on parle par exemple de véhicule pile à combustible, en fait à hydrogène, en fait on parle d'un véhicule électrique. Simplement, au lieu de stocker l'énergie électrique sous forme dans une batterie, on va le stocker dans un réservoir avec une pile à combustible qui restituera de l'électricité. Il y a toujours aussi un couplage avec des batteries, mais beaucoup plus petites, ne serait-ce que pour démarrer la pile, il faut la chauffer, mais ça n'a rien à voir avec les très grosses batteries qu'on utilise ou qu'on utilisera quand elles seront développées pour la mobilité. Et puis, l'hydrogène, ça brûle très bien, ça tout le monde le sait, et on en injecte un petit peu, ça commence de se faire dans le réseau gazier. Donc le réseau gazier, le gaz naturel, c'est du méthane, CH4. Donc forcément, quand on brûle le méthane, on libère du CO2. Et en mettant un petit peu d'hydrogène, en France, c'est autorisé aujourd'hui jusqu'à 8%. Mais quand il y a eu des essais, notamment à Dunkerque, projet Jupiter, etc., on peut aller jusqu'à 20%. Apparemment, ça n'abîme pas le réseau, ça n'abîme pas les brûleurs, les choses comme ça. Alors pourquoi on ne peut pas, et donc ça fait baisser le taux de carbone qui va être émis à partir de ce gaz, on va dire 92% plus 8% ou 80 plus 20% d'hydrogène, il y a moins de CO2. Par contre, on ne peut pas en mettre plus en l'état parce que c'est une toute petite molécule, elle va s'infiltrer dans les structures métalliques et du coup, ça va changer les propriétés mécaniques, notamment résistance à la fracture. Donc quand on fait déjà des hydrogénoducs, ce n'est pas les mêmes que ceux qui transportent le méthane. On peut faire aussi de la méthanation, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un projet à côté d'Auxerre, à Saint-Florentin, où vous avez un site d'enfouissement de déchets ménagers, donc ils pourrissent tranquille dans le sous-sol, enfin ils pourrissent ou ils se décomposent, et sort du méthane qui est capté, réinjecté dans le réseau, et sort du CO2 qu'on va combiner grâce à des bactéries, c'est un des deux procédés, avec de l'hydrogène vert, et ça va refaire du méthane. Et ce CO2 va être réinjecté dans le réseau. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Et bien c'est que vous fabriquez avec du CO2 du méthane, mais ce CO2 il serait sorti, donc avant d'être rejeté dans l'atmosphère, il va être réutilisé en énergie par le biais de la méthanation. Donc ça divise, pas tout à fait, mais presque par deux sur site, la production de CO2 par rapport à la production énergétique méthane. C'est le projet Iconet, parce que c'est dans la région de l'Iconet. Et il y a un deuxième procédé où on peut faire cette méthanation, donc CO2 plus hydrogène, grâce à des catalyseurs. C'est un autre projet qui est en test en France, mais dans la région centre, et il s'appelle Méticentre. Une pile à combustible, c'est quoi ? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est ? Donc, une pile à combustible, c'est très simple. C'est des plaques métalliques bipolaires, embouties, avec des petits canaux. Et quand vous les mettez face à face, ça fait des circuits de transport, du gaz hydrogène et du gaz oxygène. Et ils vont être poussés à travers... Je pense que mon... Ah non, j'ai pas... Bah... Ça passe plus cette fois. Pourquoi ça n'avance plus ? Bon, je vais revenir en arrière. Oh, c'est bloqué sur le help. Bon, ça ne veut plus avancer. Et en fait, je me rends compte que je vous ai parlé avec des slides qui ne sont pas passés. Voilà, ça passe plus. Ah si, ça y est, ça revient. Ça passe pas bien. Ou alors, il faut que je fasse comme ça. Ah, je vais le faire comme ça. Ça marche avec la souris. Ou alors, j'enlève la souris.
Bon, désolé pour ces petits problèmes techniques.
Ça fait bien. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Alors, je ne sais pas.
Alors, est-ce que
ben, c'est bon.
Si j'enlève ça et que je fais ça, ça a l'air de passer ouais, mieux. Mais je vais me mettre en plein écran. C'est pénible.
Ça a l'air de passer.
Ça a l'air de passer. Donc ça, c'est les slides. Que, voilà, je vais, ça sera plus facile. C'est les slides que je vous ai commentés. Voilà. Ça, les deux écrans sont pas similaires, mais c'est pas grave. Donc. Donc voilà, les piles à combustible, là vous en avez une en photo. C'est un empilement, c'est pour ça qu'on appelle ça un stack. Stack en anglais ça veut dire empilement ou empilé. Et ce n'est qu'un empilement de plaques métalliques bipolaires comme celle-ci et de ce qu'on appelle des membranes, notamment des membranes à échange de protons, PEM en abrégé, et qui finalement vont faire passer de force les atomes d'hydrogène et d'oxygène, quelque part vont les écorcher, les déstabiliser, et il va y avoir des valences qui se libèrent, et ça va faire H2O. Mais quand vous faites ça, vous libérez des électrons, et ça s'appelle de l'électricité. Donc vous recomposez de l'eau, vous libérez des électrons, donc vous obtenez de l'électricité, et en plus, ça dégage de la chaleur, c'est une réaction exothermique. Donc, l'avantage de la pile à combustible, c'est un des avantages par rapport aux batteries, c'est que c'est très facile à recycler. Je fais tout de suite une parenthèse, la batterie n'est pas l'ennemi de l'hydrogène, et l'hydrogène et les piles à combustible n'est pas l'ennemi de la batterie. La pile à combustible est une technologie qui est encore en développement, qui existe, qui est industrialisée, il y a un certain nombre de marques dans le monde de piles à combustible, on en fabrique aussi maintenant en France. Mais ça reste relativement coûteux, mais ça a des avantages. S'il n'y a pas besoin de charger longtemps, il suffit de charger le réservoir comme on charge un plein d'essence, alors que les batteries, c'est plus long en général. C'est très facile à recycler, ça a beaucoup d'autonomie, mais c'est plus coûteux pour l'instant en tout cas. Donc aujourd'hui, les batteries sont tout à fait indiquées dans certaines applications, et notamment, par exemple, tous les véhicules qui sont pendulaires, qui font 50 km aller-retour par jour. Ben, là, vous avez tout à fait la possibilité de mettre une batterie plutôt qu'un véhicule à hydrogène, une pile à combustible. Mais, de toute façon, vous voudriez acheter une voiture pile à combustible aujourd'hui, elles sont en développement, elles existent, elles sont commercialisées, c'est Hyundai avec le Nexo, c'est la Mirai, maintenant c'est deux nouvelles générations chez Toyota aussi, et elles coûtent encore relativement cher. Donc en fait, l'hydrogène aujourd'hui, il n'est pas tellement utilisé, enfin, toute cette filière n'est pas développée pour la mobilité de monsieur et madame, vous et moi. Il est développé pour d'autres types d'applications. On verra après. Comment on le fabrique ? Aujourd'hui, si on ne veut pas de craquer des molécules carbonées, vaporer formage de gaz, et donc émissions de CO2, il existe l'électrolyse de l'eau, on voit très bien ce que c'est, hein. Voilà, on met une électrode, une anode, une cathode, on fait passer l'électricité et ça fait des bulles, on a tous fait ça en quatrième, je crois. Mais voilà, donc quand on a des électrolyseurs, des gros objets qui sont assez massifs, on arrive à obtenir beaucoup d'hydrogène, puis l'oxygène pour l'instant on ne le récupère pas. Mais il y a d'autres procédés, comme la pyrogazéification. En fait, quand vous brûlez à très très haute température, la pyro, on commence à 1500 degrés, vous allez casser les molécules de C, de H et de O. Donc c'est par exemple la pyrogazéification de biomasse, de déchets biomasse. Et cette pyrogazéification va tellement casser les molécules par la haute température que vous allez récupérer de l'hydrogène essentiellement, et très peu de CO2 et de CO, puisqu'en fait, même la valence C et O va être cassée, donc il va y avoir en fait du carbone, du charbon, qui va tomber au fond de la cuve. Et ce charbon, ce char, dans le langage des pros, va être très utile pour le drainage des sols, et enfin, une forme d'engrais naturel, Ceux qui ont vécu à la campagne ou ont déjà vu ça, on jette les cendres du jardin dans le jardin. Bon, c'est pas de la pyrogasification, mais voilà, ça peut être un fertilisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est vertueux. Mais il reste quand même un peu de CO et CO2, donc on parle d'hydrogène par ce procédé bas carbone. Pareil, la thermolyse, où là, on va obtenir à 500 degrés la production d'un gaz de synthèse, d'un syngaz ou syngaz, et qui va, grâce au fait qu'on injecte aussi de la vapeur d'eau en même temps, capter le CO2, et on aura du char, de l'hydrogène et beaucoup moins de CO et de CO2, donc c'est de l'hydrogène également bas carbone. Et vous avez des noms en dessous là, de sociétés françaises ou pas d'ailleurs, qui travaillent sur les différents procédés. Donc on voit quand même aujourd'hui, alors on ne s'est pas trop étendu sur le vaporiformage, il y a Air Liquide, il y a Linde, enfin tous les grands qui travaillent dans le gaz, dans le monde, mais ils vont eux-mêmes vers des procédés différents, bas carbone en général, ou alors par captage du CO2. Et qu'est-ce qu'on fait de ce CO2? Ben, il peut servir dans la chimie, il peut être stocké dans le sous-sol, mais on privilégie aujourd'hui quand même des procédés où il n'y a pas d'émission de CO2. Par exemple, l'électrolyse de l'eau, vous avez McPhy. Alors, pourquoi je vous parle de McPhy? Parce que McPhy, ils vont faire une gigafactory au nord de Belfort, à Fontaine, sur un ancien aérodrome. Ça sera 1000 emplois à terme, c'est presque 100 hectares, enfin c'est des gigafactories pour industrialiser massivement ces électrolyseurs. Vous avez aussi Genvia en Occitanie, vous avez Plug Power du côté de Flins qui va faire de l'hydrogène et des piles à combustible pour les véhicules Renault. Donc Plug Power, c'est les Américains qui viennent en France. On a aussi des plus petits qui travaillent sur ces piles. John Cockerill, donc eux, c'est des Américains, mais qui sont là depuis des années et qui sont en train de transformer un site en Alsace, à Burnhaupt, pour faire ces électrolyseurs. La pyrogasification, c'est un peu plus rare et ce n'est pas tellement développé en France. Par contre, on a une société en France qui s'appelle Hafner Energy, qui est à Strasbourg, qui a développé un procédé de thermolyse où le procédé est à l'essai aujourd'hui en grandeur nature sur la ville de Strasbourg pour alimenter les bus. Ça se fait à partir de biomasse et le procédé va être étudié notamment via l'Agence de l'environnement, l'ADEME. Et s'il est confirmé qu'il est bien ce que les industriels annoncent, et on n'en doute pas, il pourrait être dupliqué. Et on a un gros projet ici, à côté de Dijon, à Champbœuf, où on a fournisseur de nombreux déchets bois ultimes, des écorces, des sarments, des choses comme ça. Et par ce procédé, on est en train de monter un projet avec ce procédé Hafner pour produire de l'hydrogène qui serviront aux camions Avia. Donc le groupe Thévenin du Crous. Donc vous voyez que ce n'est pas des rigolos qui s'occupent de ce type de production d'hydrogène et qu'il y a des grands groupes, y compris qui aujourd'hui vivent que du pétrole ou presque, s'intéressent à l'hydrogène.
Pouvez-vous nous indiquer quels sont les rendements des différents procédés?
Alors, je ne l'ai pas forcément là, mais les procédés... Alors, la question du rendement revient régulièrement parce que, ça dépend à quel niveau vous voulez le rendement. Si c'est sur une pile à combustible, on peut dire le rendement, aujourd'hui, il est de 60, et on va certainement 50-60, mais les nouveaux procédés et les développements de R&D vont permettre de monter certainement à 80, notamment avec ce qu'on appelle les piles SOFC, donc les piles à chauffer à haute température. Moi, je vous dis, quand vous faites brûler du pétrole dans votre voiture, le rendement, c'est 80% de chaleur et 20% de rendement mécanique, puisque c'est un procédé mécanique. Mais en plus de ça, vous ne comptez pas, le pétrole, c'est rare de l'avoir à Paris, à Marseille, il arrive par bateau, il a été extrait, etc. Si on pense émissions carbonées sur toute la chaîne de production, distribution, stockage, l'hydrogène, l'avantage, c'est qu'il peut être produit localement, avec des procédés d'électrolyse qui sont bas carbone, dont un, et ça va vous concerner puisque je pense que le nucléaire, qui est considéré dans la taxonomie européenne comme de l'hydrogène bas carbone. Donc finalement, quand on brûle du pétrole, enfin quand je dis pétrole c'est du diesel, essence en tout genre, voilà, dans une voiture, on a une immense chaudière, c'est pas moi qui le dis. Sauf que aujourd'hui, on avait tellement de pétrole et toutes les infrastructures sont en place que ce n'était pas un problème. Si on veut réduire les émissions, il faut prendre en compte pas seulement le rendement à l'instant T de l'objet, mais également globalement. Alors c'est vrai que la pile, c'est quand même des rendements intéressants, 50, 60, bientôt 80, voilà.
Quelque comparé avec une voiture électrique.
Alors, sur une voiture électrique, effectivement, la batterie, elle a un rendement beaucoup plus élevé. Mais elle a d'autres inconvénients, beaucoup d'inconvénients, notamment pour la mobilité. C'est le temps de recharge et c'est le recyclage. Et c'est les matériaux primaires pour la fabriquer, qui ne sont pas chez nous, à part le lithium qu'on va peut-être pouvoir exploiter. D'ailleurs, l'État en parle actuellement. Parce que la batterie, aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure de recyclage massif des batteries. Encore une fois, il y a ce problème d'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les batteries, c'est 100-200 km maximum. Enfin, je connais des gens qui ont une voiture qui sont vendues pour 200. Au-delà de 100 km, ils cherchent vite. Alors, c'est bien pour faire du pendulaire, mais aujourd'hui, si vous voulez faire 500 km comme avec un plein de diesel, ou enfin, maintenant, le diesel d'essence, ça va être compliqué. Et en plus, c'est long à recharger. Donc, il y a des cas d'usage où, comme je l'ai dit, la batterie va être intéressante et des cas d'usage où la pile à combustible va être intéressante. Le défaut de la batterie pour les longues distances, c'est qu'aujourd'hui, cette génération 4 n'existe pas. Elle est en développement. Et l'inconvénient de la pile à combustible, c'est qu'aujourd'hui, l'industrialisation, on est en train de la faire. Et en plus, il va falloir construire, et ça, c'est le sujet de l'hydrogène, toutes les infrastructures, production, distribution, stockage, usage, les objets qu'ils vont utiliser, puisque c'est une nouvelle énergie. Aujourd'hui, vous avez les infrastructures de gaz, depuis le gaz qui venait de Russie et qui vient encore, ou de Finlande, il y a les gazoducs, votre brûleur de gazinière, il marche, tout est conçu sur ce modèle-là. Il y a l'électricité avec les centrales nucléaires, les éoliennes, etc., jusqu'à l'ampoule que vous allumez dans votre salon. Toute l'infrastructure existe. Pareil pour, le pétrole, l'électricité, toutes ces infrastructures existent. L'hydrogène, il faut tout construire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre dans les gazoducs classiques, sauf à les rétrofiter. Il y a un plan, je vous montrerai. Alors, est-ce qu'il se fera un jour parce que chacun voit midi à sa porte, EDF dit non, il faut transporter, il faut faire plus de production, puis il faut transporter l'hydrogène, le gaz de GRDF, etc. Non, il faut. On peut même importer et puis on peut distribuer, bon, sauf que le réseau n'existe pas. Et puis vous avez des gens qui disent ben non, il faut produire massivement par des procédés différents, et puis on transportera aussi par camion. Donc aujourd'hui, il y a toutes ces pressions qui se font des gaziers, électriciens, etc., qui se sont réunis dans ce qu'on appelle le CNH, le Comité National de l'Hydrogène, qui a été créé en urgence en février l'année dernière, quand ils ont annoncé les milliards du plan France Relance, et notamment avec un axe fort sur l'hydrogène. Et moi, je ne vais pas vous donner mon avis, peut-être que j'ai des idées, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout est utile. On ne va pas commencer par imposer un modèle par rapport à un autre, puisqu'on est dans le mix énergétique, dans le mix des usages, dans la production locale et la consommation locale. C'est l'objectif et c'est même la condition si on veut devenir autonome ou plus autonome énergétiquement grâce à l'hydrogène. Donc, effectivement, moi quand je vais dans des conférences ou que j'écoute, j'entends des gens qui disent « ben non, il faut transporter, c'est mieux sous forme électrique et fabriqué sur place ». Oui, mais après, il faut stocker, etc. Il n'y a pas aujourd'hui une tendance qui dirait qu'il faut primer. Alors l'État français en a peut-être une, qui est de dire on va faire des bassins, 7 ou 10 bassins, ça dépend de la littérature, où il va falloir produire massivement. Mais ces bassins, ils se sont basés, et c'est bien, sur les décarbonations de zones industrielles, de sites industriels où il y a beaucoup d'émissions de CO2. Je vous donne un exemple, Dunkerque, ArcelorMittal, le plus gros site pollueur de France en termes d'émissions de CO2. Ce n'est pas une critique, c'est qu'aujourd'hui la réduction du minerai de fer se fait avec du charbon qui arrive tous les jours par convoi entier de trains, de wagons, et que cette réduction, on peut la faire par de l'hydrogène. Si cet hydrogène est bas carbone ou vert, ça va très bien, il n'y a pas de déchets en plus, beaucoup moins. Mais il faut l'avoir, l'hydrogène vert. Donc ils vont faire ça avec Engie et sur le coup. Et Un jour, peut-être dans 10 ans, parce qu'il faut les développer, on pourra le faire aussi grâce au nucléaire avec les fameux SMR, Small Modular Reactor, dont a parlé le président Macron il y a quelques temps. Sauf qu'ils n'existent pas, qu'il faudra les construire. Et qu'ils ne sont pas encore développés. Donc voilà. Donc, il n'y a pas. Que ce soit batterie, pile à combustible, que ce soit stockage sur place, production sur place ou transport, aujourd'hui, on est encore dans une phase de. Je dirais presque de foisonnement, et c'est ce que je disais en introduction. Si vous avez l'âge de voir comment ça va tourner, ça tournera. Il y aura des choses peut-être qui vont être abandonnées, des choses qui vont être améliorées. Et peut-être que, moi je ne suis pas sûre de tout voir, hein, mais voilà, c'est parti, le coup est parti, c'est en développement. Et finalement, la filière hydrogène, je vous ai parlé des fameux C, carbone, H, hydrogène, O, oxygène, c'est une sorte de Tetris déjà par rapport à ce cycle de l'eau, de l'oxygène, de l'hydrogène, assemblage, désassemblage, c'est l'aspect rendement, parce que les démonstrateurs qu'on fait aujourd'hui, ils sont plus souvent économiques que technologiques, parce que la technologie avance à une vitesse folle maintenant qu'il y a des sous, et certainement, il y a des tendances peut-être qui vont se dégager, mais ce dont on est pratiquement sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aura cohabitation de plusieurs schémas. On va sortir du tout quelque chose. En tout cas, si on veut être autonome et souverain en termes d'énergie, il n'y a pas de choix. Et ça ne sera pas au niveau d'un pays, ça sera plus au niveau d'un continent. Sur un continent, il y a toujours un endroit où il y a du soleil, du vent, des barrages, des consommations importantes à un endroit qui ne sont pas à un autre, etc., etc. Donc on voit plutôt se dégager ces aspects continentaux, mais là il faudrait avoir une lunette qui lit dans le passé, mais c'est un peu ce qu'on ressent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En partie
seulement.
En partie.
Oui, j'ai toujours pas les rendements clairs.
C'est-à-dire
des rendements des chaînes filières qu'on vous laisse proposer.
Alors, je ne les ai pas. Je peux vous montrer, là, j'ai des rendements par rapport à la transformation des énergies renouvelables en différents procédés. Je pourrais vous le passer. J'ai toujours du mal à donner les rendements parce que d'une littérature à l'autre, ça change. Et en plus de ça, on ne sait pas ce qui a été mis dedans. Comme je l'ai dit, si on dit la pile à combustible c'est 60, la batterie c'est 80, voire 90, il faut raisonner global, sinon on ne parle plus de... Voilà.
Et le rendement d'électrolyse.
Oui, oui, oui. Pareil, les électrolyseurs, comme la pile à haute température, il y a des électrolyseurs à haute température, ça bouge à une vitesse folle, il y a encore autant de R&D que d'industrialisation aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a encore 5 ans, personne ne parlait d'hydrogène sans dire c'est pour jamais. Et aujourd'hui, tous les pays du monde y vont. Tous les pays du monde. Comme le ferroviaire en 1900. Et il y avait des gens qui disaient ça sera pour jamais, et maintenant on a des TGV. Donc on sent bien qu'il y a quand même cette tendance à utiliser l'hydrogène comme nouvelle énergie, un nouveau vecteur d'énergie, d'aller vers de l'hydrogène vert, propre, pas carbone. Mais on est en train de tout construire. Je regardais une émission il n'y a pas si longtemps, on parlait de la Micheline, je crois que ça s'appelait. C'était un train à apnée qui a eu tout son temps, ça a duré pendant 50 ans. Ça a été abandonné, mais pendant 50 ans, ça a très bien rendu ça en service, pour diverses raisons, et puis ça a disparu. Donc, en fait, le monde, il est mouvant, et les énergies, et les consommations, et les besoins aussi. Première remarque aussi importante, alors, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'ai inventé. La transition énergétique, c'est 3 choses pour aller vers la limitation des émissions. C'est 1, ne consommer moins d'énergie. Ne pas gaspiller, ça commence par là. Alors, ça peut être, c'est pas Versailles ici, hein, mais ça peut être aussi rouler moins vite. Ça peut être, voilà. 2, isoler les bâtiments. Ça, c'est la première source de déperdition en France et en Europe et dans le monde. Le bâtiment. 2, c'est de rendre les objets qui consomment de l'énergie plus efficients. Je prends un exemple, une voiture en 1920 c'était 30 litres ou 100, maintenant c'est 5 grand max pour aller 10 fois plus vite. Donc, rendre plus efficient. Et 3, c'est utiliser des énergies propres. produire proprement ou le plus proprement. La planète, elle est capable d'avaler quand même pas mal de carbone, mais pas autant qu'on lui en a demandé ces 100 dernières années. Voilà.
S'il vous plaît, qu'est-ce que vous entendez par haute température pour les piles à combustible ?
Alors, je vais dire que c'est presque une colle parce que j'ai un... Je crois que c'est au-dessus de... Elle chauffe au-dessus de 80 degrés ou quelque chose comme ça. On les chauffe très fort, mais je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais vous renseigner. Vous avez Genevia en Occitanie, qui est une spin-off du CEA, directrice Florence Lambert, qui était elle-même directrice du CEA Litten à Grenoble, qui a créé la société, qui va être d'ailleurs aidée dans le cadre d'un plan qu'on appelle PIEC européen, pour développer ces piles, haute température. Ah, ben si, oui.
Je travaille sur les piles haute température.
Un spécialiste.
Donc, voilà, le domaine de température, initialement, on parle de ça, donc en 2000, c'était 1000 degrés.
Ah, 1000, carrément. Ah, oui. Ouais.
Les PEM, effectivement, on essaie d'augmenter la température jusqu'à 100 pour éviter les problèmes de condensation d'eau. Nous, les piles SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, on est parti de 1000, on est descendu à 800, et maintenant, le domaine envisagé d'utilisation, c'est entre 500 et 600.
D'accord.
Les modèles commerciaux, c'est 700. C'est une haute température. Ce sont des composés céramiques qui sont différents. Pour apporter.
C'est de la SOFC, Genevia, si. Il me semble.
Solid Oxide Fuel
Cell. Genevia, c'est bien de la SOFC.
Ah oui.
Oui, si.
Parce que j'avais l'impression.
Ils sont vers 700.
Oui, ça doit être ça.
Donc les plans hydrogène. Ah, il y a une. Vous avez une question ?
Est-ce que le réseau électrique français est capable de supporter l'augmentation de la production par électrolyse de l'eau ? Sachant que on a des
gens. Alors l'idée c'est pas de transporter. Alors c'est pour ça que je vous disais il y a des lobbies, hein, mais pas un gros mot lobby. Hein, c'est non, il n'est pas. Aujourd'hui, il n'est pas capable. Mais l'idée c'est de produire localement. Vous avez par exemple une société, alors j'en parle parce que c'est la seule qui fait ça en Europe et c'est pas elle qui va alimenter le monde et la planète toute seule avec l'hydrogène vert, mais vous avez la société LIFE, ça s'écrit L-H-Y-F-E. J'étais avec le fondateur de cette entreprise il y a mardi et il explique, ils ont fait des prototypes, enfin c'est même plus des prototypes, vous avez l'île, alors je suis nulle en géographie, d'Oléron je crois, et une autre en Vendée. Qui est alimenté par une sorte d'usine globale de production d'électricité verte. Champ d'éolienne, électrolyseur, stockage, pile à combustible, pilotage de tout ça, et l'électricité part sur les deux îles en question de manière totalement off-grid. EDF n'a pas un bon... Enfin, ils ne sont pas raccordés. Ça ne plaît pas toujours, d'ailleurs, mais c'est complètement autonome. Alors pourquoi ils ont fait ça en Vendée ? Ben parce qu'il y a du vent, parce qu'ils alimentent une île, donc avec une consommation qu'ils maîtrisent, parce que aussi il y a eu une volonté politique. Il y a des projets hein, en particulier, est-ce que ça va aboutir dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté ? Et ils en ont déployé aujourd'hui, c'est en train de Vendée, ça marche, hein, c'est lancé, ça a été inauguré l'année dernière. Il y en a en Europe une quinzaine, je crois, il m'a dit 10 ou 15, je ne sais plus, qui sont en construction. Donc l'idée, ce n'est pas de tout passer par les fils de Enedis et RTE, c'est aussi de produire localement, c'est l'avantage de l'hydrogène. D'autres questions ? Non, j'ai pas commenté ça. Alors ça, je vais pas trop traîner là-dessus, mais grosso modo, ça, c'est un slide qui vous explique que, alors c'est en 2020, au moment du Covid, je sais pas, les consciences se sont réveillées, ou enfin, moi, je pense que les sociologues se pencheront sur la question peut-être dans 20 ans. Il y a eu un déclic. Tous les pays, alors ça a été conjoint avec le Covid, alors, moi, le lien, je ne le vois pas, mais il y a eu une sorte de déclencheur. Alors, est-ce que les entreprises avaient, c'est pas drôle, mais du temps pour réfléchir à autre chose ? Est-ce que les gens ont vu cet effet quand on arrête tout ? Ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Mais comment la nature se régénère, enfin on ne sait pas. Toujours est-il que les États se sont tous mis à débloquer des milliards pour leur plan hydrogène. 7 milliards en France, qui sont passés à 9,2 milliards il y a quelques semaines, ils ont rajouté 2 milliards. 7 milliards, même en fait, ça dépend comment on compte, ça peut même être 12 en Allemagne. En Grande-Bretagne, pareil. Au Portugal, pareil, parce que le Portugal a beaucoup de vent, a de la mer, pas loin, donc peut devenir et deviendra certainement un producteur important d'hydrogène bas carbone vert, ENR, renouvelable. Voilà, donc là, ça a décoincé les esprits parce que du coup, tout ce qui freinait ces développements sur la filière, eh ben, en fait, se sont lâchés et c'est comme ça qu'on a eu à la fois des implantations exogènes, des étrangers qui sont venus chez nous, à la fois des nouveaux sites comme McPhee, Camille, donc les électrolyseurs à Fontaine au nord de Belfort, mais une usine de station hydrogène à côté de Grenoble. Vous avez Forestia qui a créé, alors je vais vous parler surtout de ceux de la région pendant que j'y suis, hein, autant. À Bavant, à côté de Montbéliard, créé son centre de R&D sur l'hydrogène mondial. Et vous avez, ils font leur usine de production à côté de Montbéliard également pour les réservoirs. Mytech qui fait des gros réservoirs pour le stationnaire. H2-6 qui fait des groupes autonomes. Sundyne à côté d'ici qui voit son marché sur les compresseurs hydrogène qui augmente. Vous avez, voilà, il y a eu un déclic. Donc aujourd'hui, ça crée des emplois, ça, les gens, les entreprises recrutent. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir aussi former les jeunes pour l'hydrogène. Et la bonne nouvelle, parce que j'entends souvent, et on est d'accord avec des enseignants, notamment du TBM, de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, pour dire qu'il ne faut pas si, tant s'affoler que ça. On nous dit, oh là là, mais oui, mais on ne va pas trouver les compétences. En fait, les compétences pour l'hydrogène, c'est pratiquement les mêmes que ce qui existe déjà. C'est de la mécanique de précision, des ingénieurs en matériaux, de la soudure, des spécialistes découpage et emboutissage, des électriciens, etc. Et il y aura simplement plus d'habilitation ATEX, c'est-à-dire haute pression, et plus d'habilitation électrique. Et en électricité, et ce qui est ce qu'on remarque, c'est que c'est des métiers qui sont déjà, comme on dit, en tension, c'est-à-dire où il n'y a pas assez dans les filières. Donc il va falloir motiver. Voilà. Et ce n'est pas des métiers... Par exemple, on me disait l'autre jour, un industriel, nous, ce dont on aura besoin, c'est par exemple des pilotes de ligne, alors de ligne de production. Parce que ces procédés pour fabriquer les électrolyseurs ou les piles à combustible, ce sont des usines complètement automatisées. C'est du propre, c'est de la cadence très haute, c'est de l'empilement automatique. Aujourd'hui, les piles à combustible, comme je vous les ai montrées, avant, c'était dans les laboratoires qu'on les empilait pratiquement avec un pied à coulisse pour les premières. Maintenant, il va falloir automatiser, c'est déjà automatisé, mais il va falloir avoir des gens qui savent programmer, contrôler, visio sur les processus et puis automatisation. Donc, c'est des métiers qui existent, mais on va en avoir encore plus besoin. Bon, ben on va peut-être pas y revenir du coup, mais véhicules électriques, batteries, véhicules électriques, hydrogène et thermique, avantages, inconvénients, le thermique, carburant importé, dépendance totale, émissions de gaz à effet de serre, véhicules électriques à hydrogène, pas mal d'avantages, mais on va voir des inconvénients qui ne sont pas liés directement au véhicule, mais plus à ce qu'il y a autour, la production, la distribution, des infrastructures qu'il va falloir développer. Donc, autonomie élevée, rapidité de remplissage, peu d'impact sur les conditions climatiques, parce qu'on n'a pas voulu mettre pas d'impact. Large échelle de puissance, comme tout véhicule électrique, il y a une très forte puissance au démarrage. Hein. Zéro émission, haut rendement, bon ça, ça n'a à négocier. Couple instantané, silencieux, ça c'est vrai, comme tout véhicule électrique, et production locale possible. Le véhicule à batterie, on reprend zéro émission, couple instantané, silencieux, production énergétique locale, puisque c'est de l'électricité. Véhicule électrique à batterie, par contre, des inconvénients, le poids de la batterie. Alors, il faut calculer, hein, parce qu'il y a la pile à combustible plus les réservoirs. Mais si vous voulez des très grosses batteries pour faire de la longue autonomie, je ne parle pas des petites batteries qu'on a sur la Zoé aujourd'hui, hein, les véhicules qui vont rouler longtemps, ça sera des grosses batteries relativement lourdes. Des produits, le lithium et autres trucs qu'on a chez nous, remarquez, pour le lithium, mais qu'on n'exploite pas encore, et par contre, difficulté à recycler, hein, c'est de l'électrochimique, tout est un peu mélangé. On n'a pas les filières aujourd'hui, on ne travaille pas, ça c'est un problème assez sur ces filières de reconditionnement ou de retraitement des batteries. Et puis aujourd'hui, autonomie limitée, mais vous avez des projets, par exemple Total Saft et PSA, c'est Stellantis maintenant, et Mercedes, qui n'est pas dans Stellantis, travaillent sur un projet. Donc la R&D se fait sur le site de Saft à Blanquefort, je crois, par là, à Bordeaux. Et puis l'usine sera à Douvrin, dans les Hauts-de-France, pour fabriquer ces batteries. Malheureusement, pas tout de suite, dans 5-6 ans, sur la recherche française, il y a des pays qui sont plus en avance, les États-Unis et l'Allemagne notamment. Là, c'est une prospective Faurecia récente de leur vision de comment l'électrification des véhicules va se produire avec les différents types d'électrification. Donc en vert, vous avez 2% de piles avec les piles à combustible en 2030. Comme je vous ai dit, les voitures, je parle voiture et même véhicules en général, aujourd'hui, il n'y a pas les chaînes d'industrialisation. Il faut revoir complètement la structure des véhicules. Donc voilà, ça se met en route. Par contre, on voit l'accélération après 2025, puisque en 2035, il y aura une obligation. Alors, la France essaie de dire l'hybride, ça sera quand même bon. L'Europe dit non, il n'y aura plus d'hybride, il faudra que ce soit tout électrifié d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les industriels vont pouvoir tenir le tempo? C'est pas certain. Mais en tout cas, il n'y aura plus de véhicules fossiles, on va dire, à cette date-là. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions, mais voilà, on va essayer en tout cas. C'est plus petit, hein. Je suis désolée. Non, je ne peux pas le grossir. Alors, il n'y a pas que dans la mobilité qu'on utilise l'hydrogène, comme je vous l'ai dit. Ça sert à stocker l'énergie électrique sous une forme ou une autre, pardon. Notamment, comme je vous ai dit, hein, quand il y a du vent mais qu'on n'a pas besoin d'énergie, etc., ou que l'énergie n'est pas rachetée par le réseau et qu'elle ne vaut rien, autant stocker cette énergie sous forme d'hydrogène via de l'électrolyse notamment. On peut stocker aussi de l'énergie, alors on parle souvent par les ENR, le vent, le photovoltaïque, mais l'hydroélectrique par le phénomène de STEP, c'est pareil. Vous allez remonter par une pompe au moment où l'électricité n'est pas chère de l'eau dans un STEP et la relâcher au moment où on en aura besoin, où on pourra la revendre plus cher. Mais on peut aussi stocker de l'hydrogène grâce à ça. Produire et stocker de l'hydrogène. Le tout, c'est finalement d'accorder la production, la distribution et les usages, l'instantier de la consommation. Aujourd'hui, on a eu pendant des décennies tendance à produire, puis quand on n'avait pas besoin, on coupait, voilà. Mais aujourd'hui, on voit bien plus d'usage d'électricité, plus d'usage de mobilité, qu'il va falloir réguler tout ça. Et pas laisser se perdre de l'énergie et pouvoir en fournir quand on en a besoin de beaucoup, sans pour autant reconstruire des infrastructures. Applications stationnaires, les groupes électrogènes, ça peut être des groupes autonomes, alors ça peut servir dans plein de choses, sur des bateaux. Ça peut servir pour les pompiers, par exemple, les SDIS sont très intéressés à avoir des groupes électrogènes. Puis la combustible, vous avez une société à Belfort qui s'appelle H26, comme hydrogène H2 système, qui développe ses piles et qui les met dans des groupes électrogènes. Alors je vais vous donner des exemples d'applications. Les SDIS sont très intéressés parce que imaginez malheureusement un accident en pleine nuit, ils vont besoin de, vous avez peut-être déjà malheureusement vu ça, de lumière, d'un certain nombre de sources d'énergie, et aujourd'hui c'est des groupes électrogènes au pétrole qui font un bruit énorme. Or quand il y a des blessés, ça gêne la bonne compréhension des gens autour des blessés, enfin ils sont très intéressés par ce type d'objets qui peuvent embarquer à la place du groupe électrogène dans leur camion. Il y a eu les Eurokéennes à Belfort qui ont été en partie à l'époque, maintenant ils pourraient faire complètement éclairés grâce à la sono d'une scène alimentée grâce à un groupe électrogène d'H26. Les hôpitaux aussi utilisent ces groupes électrogènes en cas de rupture. Si vous êtes sur la table d'opération, il faut absolument que ça continue quand même. Donc du coup, ils vont baisser la consommation de l'hôpital, mais un groupe électrogène, souvent encore carboné, mais à Montbéliard, l'hôpital Midi en CD, puis la combustible, qui vont alimenter. Et puis vous avez des usages, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah si, très important, donc H26 a développé le Titan avec Hyundai, en plus c'est moi qui ai amené ce partenaire que je pensais improbable, une start-up avec un groupe mondial, et ils ont développé le Titan, c'est un gros groupe électrogène qui va pouvoir alimenter le réseau en cas de réparation ou de rupture. Pour remplacer les groupes électrogènes qu'ils utilisent actuellement. Et un Titan est en test en Alsace avec Enedis pour des travaux, pour tester voilà, comment ça peut remplacer les groupes électrogènes classiques. Et puis alors il y a le dernier point, c'est la méthanation, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, je ne vais pas y revenir. La R&D continue. Sur l'efficience énergétique des objets qui consomment de l'hydrogène, hein, les véhicules, et puis même les objets en eux-mêmes, puis la combustible électrolyseur. Alors ça, je ne vous le cache pas, je l'ai pompé, c'est écrit en haut à droite, source FC Lab, parce qu'il y a une plateforme, puis la combustible pour les essais et un laboratoire, une fédération de recherche à Belfort qui travaille là-dessus. Donc voilà, il y a le CNRS, le CEA, il y a des laboratoires très nombreux aujourd'hui, des équipes de recherche qui travaillent sur toutes ces performances, l'amélioration des performances, donc notamment efficience énergétique, durabilité, le coût sur tout le cycle de vie, la transition socio-technique, et puis je reviendrai rapidement là-dessus, et la disponibilité de l'H2 vert ou bas carbone. Alors on ne dit plus H2 vert, on dit H2 renouvelable. La taxonomie européenne reconnaît hydrogène carboné, hydrogène bas carbone, hydrogène renouvelable, qu'on appelle encore souvent vert, mais voilà. Je reviens sur le socio-technique et l'acceptation sociétale. Au début de le développement de la filière, on nous disait, vous verrez, jamais personne ne voudra rouler dans une voiture hydrogène, jamais personne ne voudra monter dans un bus hydrogène, jamais personne... Et puis finalement, si, ça se passe très bien. Il y a 5 bus qui circulent à Auxerre, les bus Safra, constructeur français, le seul pour l'instant. Vous avez Pau, qui a des bus à hydrogène. Bientôt, Dijon, alors Dijon, on y est, sera le plus gros écosystème de mobilité hydrogène public et à terme privé aussi, d'Europe. 180 bus. 40 bennes à ordures et puis tout ce qui pourra circuler à l'hydrogène, les véhicules utilitaires, les petits camions, des gros camions quand ils arriveront. Volonté là aussi politique, avec l'appui de l'État, puisqu'il y a des aides pour à la fois la construction de ces stations hydrogène, la production et l'achat des véhicules qui sont plus chers aujourd'hui. Donc il y a une aide accompagnée aussi par la région Bourgogne-Franche-Comté, une aide, une prise en charge du surcoût du véhicule partiel. Comment est produit l'hydrogène ou sera produit l'hydrogène pour les bus de Dijon? Ça sera du bas carbone et du vert. Il se trouve que Dijon a une usine d'incinération qui brûle les déchets à 800 degrés à peu près. Ce n'est pas une usine d'incinération classique, c'est 400-500. Mais il brûle ce qu'on appelle c'est des déchets hospitaliers. Et ces déchets hospitaliers, il y a une réglementation qui oblige à brûler à 800 degrés. Plus vous augmentez la température, plus vous obtenez un syngaz riche en hydrogène et plus faible en CO2. Donc, quelque part, on diminue quand même assez drastiquement les émissions de CO2. Mais ceci dit, ce gaz, ce syngaz, il est pollué parce que, bon, des déchets ménagers, vous avez du soufre, vous avez tout un tas de trucs aussi. Donc ce gaz est purifié parce que ça, c'est déjà obligatoire et c'est déjà le cas, on ne peut pas sortir comme ça. Et il est brûlé dans une turbine qui va faire de l'électricité. Elle sera considérée comme bas carbone, puisque le taux de CO2 est moindre, nettement moindre. Cette électricité va électrolyser et donc va faire ce qu'on appelle de l'hydrogène, ce qui reste de l'hydrogène, mais considéré comme bas carbone. Et cet hydrogène, il va être mis dans des bennes à ouvrier, qui elles-mêmes vont aller chercher les déchets, qui vont être transformés en hydrogène pour permettre aux ordures d'aller chercher d'autres déchets, etc., mais aussi alimenter des bus. Mais sur les bennes à ordures, c'est typiquement ce qu'on appelle une économie circulaire. Plutôt que de faire venir du pétrole d'Arabie Saoudite ou je ne sais où, là, on produit, elles produisent leur propre, elles collectent l'entrant de leur propre futur carbone. Et puis, ça ne suffira pas, parce que les déchets ménagers, ils ont plutôt tendance à essayer de diminuer que de grossir. Donc, ils ont mis sur la colline qui est à côté, je crois que c'est 17 hectares, en tout cas 17, 14, 15 hectares, je ne sais plus, de panneaux photovoltaïques pour, alors là ça sera du renouvelable, pour faire également de l'hydrogène à partir de cette électricité. Et l'histoire est assez amusante parce que j'ai trouvé cette colline, moi qui ne suis pas de Lyon, très carrée, très rectangulaire, et en fait c'est pas une colline naturelle, c'est un ancien site d'enfouissement qui a été revégétalisé. Et l'histoire c'est qu'aujourd'hui les déchets ne sortiront plus de là mais servent à produire un hydrogène vert pour alimenter les bennes à ordures qui vont chercher ces déchets qui ne seront plus jamais enfouis, mais détruits. Comme quoi, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc ce modèle qui a été imaginé par Dijon, par des ingénieurs, par la société aussi Rougeau Énergie et sa filiale Justie, qui s'appelle Colibri maintenant, Colibri Énergie, est unique en Europe, mais va faire l'objet de nombreuses explications. Et comme ça papote, je vais vous demander pourquoi ça s'appelle Colibri Énergie. Dans l'hydrogène, vous avez beaucoup de colibris en logo. Green GT, Colibri, Colibri Énergie. Est-ce que vous connaissez l'histoire, la légende néo-zélandaise du colibri? Non. En gros, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. En fait, il y a une île en Nouvelle-Zélande qui brûlait et tout le monde se barrait, allait sur la plage, les hommes, les animaux, regardaient l'île brûler en disant « on n'y peut rien, on n'y peut rien ». Et il y a un petit oiseau, un colibri, qui allait à la mer, qui prenait un peu d'eau de son bec, qui allait le jeter dans la fournaise et qui revenait, qui jetait un peu d'eau dans la fournaise. On lui disait « mais tu perds ton temps, arrête, ça ne sert à rien ». Et il a répondu « oui, mais moi, j'aurais fait ma part voilà. ». Donc ça, c'est une petite légende et je trouve qu'elle veut tout dire. Si tout le monde fait sa petite part, à la fin, ça ira beaucoup mieux. Et c'est vrai pas que pour l'énergie. Perspective mobilité 2030. On pense peut-être ça sera plus, peut-être ça sera moins. Moi, je pense que ça sera plus. D'ici 2030, la production de véhicules pile à combustible pourrait représenter 2,5 millions de véhicules, dont 20% pourraient être des poids lourds. Alors pourquoi les poids lourds, la mobilité lourde, bus, bennes à ordures, poids lourds, c'est ce qui intéresse dans l'hydrogène, c'est parce que ça consomme beaucoup. C'est vrai dans toutes les énergies, les camions consomment plus qu'une trottinette, quoi. Et ça permet, notamment pour les flottes captives, de rentabiliser les infrastructures de production-distribution. Puisque si vous installez une station hydrogène, que vous avez un mix total, Air Liquide, Life, etc., ça coûte quand même entre 5 et 10 millions pour construire une nouvelle station, comme je vous l'ai dit. Parce que la station hydrogène, ce n'est pas seulement le truc pour distribuer, c'est aussi la production. Hein. Ce n'est pas comme une station essence, puisque là, on vous amène le pétrole, il vient de loin, mais ça. Donc, la station hydrogène, entre 4, 5, 10 millions, suivant la puissance de l'électrolyseur, par exemple, si c'est un électrolyse. Et il faut la rentabiliser, et même si vous êtes Total ou Engie ou Inamix, la filiale EDF hydrogène, et ben il faut que ça soit quand même un peu rentabilisé. Pour l'instant, ils ne rentrent pas dans leur coût. Donc ils sont quand même aidés par des aides d'État et régionales. Mais voilà, donc les gros véhicules, et en plus captifs, parce qu'ils reviendront au même endroit pour recharger, c'est vraiment ce qui est ciblé. Alors en France, il y en a qui parlent de 300 stations, des fois on entend 1000 en Europe, bon ça c'est des perspectives, je pense que c'est plus un aiguillon, c'est un peu pifomètre parce qu'on n'en sait rien, mais enfin voilà, on donne des chiffres comme ça aussi, je pense, pour motiver la création de ces stations. L'hydrogène dans la mobilité, la sidérurgie, l'industrie chimique aussi, donc là vous avez... Alors, vous n'allez rien voir du tout, j'imagine. J'avais demandé qu'on me refasse le slide, je l'ai lu ce matin avec du jaune, c'est parfait.
C'est génial.
Voilà. c'était trop tard pour que je fasse rechanger. Alors, je vais changer de lunettes. Je vais vous donner, par exemple, une voiture. C'est 0,2 tonnes par an d'hydrogène. 1 kg d'hydrogène, on fait 100 km. Moyenne, 20 000 km par an. Un taxi, c'est 0,6 tonnes par an. 1 kg, toujours 100 km, 60 000 km par an. Un train, tiens, alors un train, parce qu'il va y avoir 3 trains en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a une dizaine en France qui ont été commandés à Alstom, des trains bimodes hydrogène, puisque le réseau français est à moitié électrifié, donc quand il y a de l'électricité, ben, on la prend par un pantographe, mais par contre, quand il n'y en a plus, on a des blocs diesel, et ça, ça va être supprimé et remplacé par un bloc électrogène hydrogène. Pareil pour la quantité d'énergie embarquée. Donc on aura des trains électriques bimodes, pantographe et pile à combustible, 3 qui feront une navette entre Auxerre et le hub ferroviaire La Roche-Migène, et puis les autres peut-être vers Avallon, etc. Le premier devrait arriver vers 2023-24, sachant que le Covid a quand même un peu ralenti pas mal des choses. Voilà, ils étaient en plein programme de développement et ils n'ont pas travaillé quasiment là-dessus. Enfin, ça a été très ralenti. On parle des avions. Alors, les avions, alors un train, je ne vous ai pas dit, c'est 35 tonnes par an, 0,27 kg pour 100 km. Et ça fait 130 000 km en moyenne. C'est pendulaire. Alors, c'est pareil, les TER, c'est pendulaire. Donc, on met une station et il fait comme ça. Et la station des bus d'Auxerre alimentera, dans un futur proche, donc, aussi une station dédiée au train, au TER. Aux 3 TER. Il va y avoir des avions. Il y a une filiale d'Airbus qui s'appelle Zero Avia qui travaille sur les avions interrégionaux, pas très très grande distance. Et dès 2035, il y aura des avions, disent-ils, à l'hydrogène. Alors dans les avions, pas de pile à combustible, c'est trop lourd, Ça sera plutôt de l'hydrogène. Alors pour les petits trajets, entre guillemets, ça sera encore de l'hydrogène gazeux, mais probablement on va vite aller vers l'hydrogène liquide. Et notamment les gros avions, c'est comme les paquebots et tous ces trucs-là, ça sera de l'hydrogène liquide. Donc la filière cryogénisation est à développer également. Elle ne sera plus réservée au spatial. Après, on peut en mettre dans des chariots élévateurs, on peut en mettre dans des fourgons, des véhicules utilitaires légers et lourds, donc dans des poids lourds. Dans les poids lourds très très lourds, ça sera les camions remorques. Vous aurez à ce moment-là aussi probablement des solutions avec hydrogène liquide, mais par exemple, Iveco a déjà développé des prototypes où ils mettent les réservoirs derrière la cabine. Et comme ça prenait sur la longueur, il fallait, comme les transporteurs ne veulent pas réduire leur volume cabine de charge, il a fallu que l'Europe autorise un rallongement de la largeur d'un réservoir, on va dire 1 mètre, je crois que c'est 80 cm, parce qu'il y avait une norme qui disait « ça ne doit pas dépasser telle longueur ». C'est aussi bête que ça, des fois, de faire évoluer une économie, c'est de modifier une norme. Voilà, il y a des barges, beaucoup de barges qui sont développées. Actuellement, je travaille sur des projets, j'espère qu'on y arrivera, de slow tourisme vert sur des bateaux sur la Saône. Pareil, des touristes qui ne veulent plus entendre le bruit et sentir la fumée quand ils partent 2 jours, 3 jours en croisière. Et les bateaux, l'avantage, c'est que le poids est moins un problème puisque les bateaux sont lestés à la base. Donc là, le lest, ça sera la pile, par exemple. Et les bateaux, il y a de la place quand même dans la cale. Je vais passer rapidement aussi. Oui.
Au slide précédent, c'est quand même curieux que les trains consomment moins le quart de ce que nous consomment.
Énergie cinétique. Alors, ça m'a surpris aussi quand je l'ai lu. On m'a dit si, c'est normal. Alors, je vais quand même vérifier, je vais creuser quand même. Oui, ça me semble bizarre aussi. Alors si, je sais pourquoi aussi. Dans le calcul, il y a le fait qu'ils sont bimodes en France. Il y a une partie sur la longueur, il y a 50, je pense qu'ils ont pris les 50%, mais néanmoins les chiffres sont bas. En Allemagne, les trains qui circulent déjà, qui sont des trains e-Lint, on les appelle, c'est des trains full hydrogène, parce qu'en Allemagne, le réseau ferroviaire n'est quasiment pas électrifié. Pas électrique. à part les TGV qu'ils appellent, je ne sais plus comment, ICE. Il n'y a pas de... Donc là, ils sont obligés de les mettre full hydrogène. Donc c'est pour ça que les trains allemands, question qu'on me pose souvent, pourquoi on ne les prend pas et qu'on ne les peut pas chez nous? Parce que nous, on va quand même utiliser le réseau électrique qui est là. Quoi, hein. Quand il est là, il est là. Donc ça, c'est l'histoire sur les véhicules. 2001, Peugeot a fait un taxi à l'hydrogène. Le groupe PSA avait développé en 2006 une pile, j'ai oublié son nom, c'était, je ne sais plus, Genpak, c'est ça, hein, c'est marqué en plus. Bon. Genpak, voilà, c'est ça. Avec le CEA de Grenoble, je crois. Citroën, ils en avaient fait une aussi en 2008. 2000 Opel, qui en a fait une version en 2001, puis encore après. Et en 2022, aujourd'hui en France, il y a des constructeurs qui font des véhicules utilitaires légers. Donc les trois marques de la marque Stellantis, enfin trois des marques de la marque Stellantis, Opel Vivaro, Peugeot, Expert et Citroën Jumpy, qui sont des véhicules utilitaires légers, qui vont être industrialisés à Amiens. Et puis Renault Master en deux versions, qui lui sera industrialisé, je ne sais plus où. Par contre, les piles à combustible de Renault ne seront pas des piles françaises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un consortium SAF Total PSA pour maîtriser sa technologie pile. Renault a choisi une autre option. Ils ont fait une JV, une joint venture, une co-entreprise avec Plug Power, des Américains qui font des électrolyseurs et des piles à combustible. Et ils ont inauguré... Ce lundi, leur usine à Flins de piles à combustible, qui va monter doucement en puissance, mais qui va équiper les Renault. D'ailleurs, voilà. Alors, un modèle à l'intérieur, c'est Stellantis, là pour le coup. Je ne sais plus si c'est le Peugeot Expert ou peu importe, c'est les mêmes plateformes. À quoi ça ressemble. C'est-à-dire que vous avez la pile à combustible, en général à l'avant. L'électronique, le système battery management, electric management, il y a des petites batteries aussi ou des plus grosses batteries suivant les technologies qui sont retenues. Et les réservoirs, ils ont choisi de les mettre dans le plancher. Là, il y a, si je regarde bien, trois réservoirs. Et les réservoirs Stellantis donc, sont faits dans notre région à côté de Sochaux.
Les réservoirs, ils sont faits en quoi? Quels matériaux?
Alors, les réservoirs, si on parle des réservoirs de la mobilité, c'est un liner. Rotomoulé ou plastique expansé en plastique, comme on l'indique, avec de l'enroulement filamentaire de carbone. Et avec le tout recuit, etc. Et avec des couches, c'est extrêmement résistant. Et il y a la difficulté, mais qui est surmontée, c'est les bouts, les embouts, parce qu'il faut bien rentrer et sortir l'hydrogène autour de ces réservoirs, et notamment sortir. Donc, quelque part, vous faites un point faible au niveau de cet assemblage de l'embout avec le réservoir enroulé filamentairement avec du carbone. Et les brevets sont surtout sur cette partie-là. Forestia, Mahitech pour le stationnaire, ce sera des réservoirs de ce type-là, liner et enroulement filamentaire. Les réservoirs métalliques existent aussi, mais pour le stationnaire. Pour des systèmes de stockage. Par exemple, vous avez l'IN2, quand on voit des gros stockages d'ENR, c'est des stockages métalliques. Vu que ça ne bouge pas, que ça reste là, il n'y a aucun souci. Alors, je ne suis pas spécialiste des métaux, mais c'est des métaux spéciaux, en tout cas traités spécialement pour que justement il n'y ait pas cette fragilisation. Par contre, il y a des normes très très strictes sur la résistance de ces réservoirs, et nous avons construit en région Bourgogne-Franche-Comté à Fontaine, à côté de McPhee d'ailleurs, ça sera, c'est en cours de construction, Colibri Énergie qui porte cette société, l'ISTIL, Institut de stockage de l'hydrogène. Il en existe quelques-uns en Europe, au Japon et aux États-Unis. En Europe, il doit y en avoir trois, un en Hollande et peut-être en Allemagne, mais aucun ne fait tout ce qui va se faire sur ce site de l'ISTIL. Vous avez des tests tir balistique à la Kalachnikov, vous avez des tests à l'incendie, vous avez des tests à 1000 bars, alors que le fluo qu'on mettra c'est du 700 bars, pardon, pour la mobilité légère. Vous avez des tests de cyclage, donc on charge, on décharge le réservoir, et de perméation, donc d'évaporation à travers les pans. Aujourd'hui, quand, imaginons pire, entre guillemets, comment ça se passe s'il y a un réservoir qui est endommagé? Il y a des points faibles, des systèmes de sécurité, et l'hydrogène sort en quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, si c'est un très gros réservoir, en torchère. C'est prévu comme ça. Et les pompiers nous disent, nous on préférera intervenir, parce qu'ils font des essais, hein, j'ai vu des essais dans les Landes, à côté de Cherbourg, on préfère ce type d'événement parce que ça ne part pas dans tous les sens, alors que, par exemple, une batterie, une très grosse batterie, on ne sait pas où est le courant. Et en plus, pour éteindre un incendie sur un véhicule à batterie, c'est très compliqué. C'est eux qui le disent. Moi, je, voilà. Après, sur le pétrole, sur les réservoirs d'essence, il y a cet effet feu qui se propage très, très, très vite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contenir. Donc, il n'y a pas de bonne solution quand on stocke de l'énergie électrique, gaz, inflammable en tout genre. Le stockage d'énergie, par définition, est dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des, que ce soit dans une voiture ou que ce soit dans un site pétrolier ou que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il y a les normes qui sont là. Ça n'exclura pas qu'il y aura un jour peut-être, même sûrement, des accidents. Reste à voir comment on traite cet accident et comment, faut pas que ça arrive tout le temps. Il ne faut pas que ce soit fréquent. Et puis, objectivement, ils nous disent, ben, s'il y a un accident, à la limite, c'est pas pire, quoi. C'est, voilà. Par contre, il y a tout un tas de mythes autour de l'hydrogène. Attention, ça explose. Attention, c'est dangereux. Le risque, il n'est pas là. Le risque, il est, s'il y a une micro-fuite, il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation. Où est-ce que l'hydrogène peut s'accumuler? Pas dehors, puisque de toute façon, il part immédiatement ailleurs. Il s'accumule. Il peut s'accumuler dans les tunnels, et ils s'accumulent dans les, par exemple, sous-sols. Donc aujourd'hui, comme on ne pourra jamais jurer qu'il n'y aura jamais une fuite quelque part, il y aura certainement des normes différentes de ventilation. C'est aussi simple que ça. Les bus qui sont à hydrogène, le stockage en général se fait au-dessus, et en cas de fuite et d'explosion, tous les bâtiments où sont stockés les bus, ce sont des bâtiments à toit soufflant, soufflés, comment on dit. C'est-à-dire que ça partira vers le haut. Alors évidemment, si vous êtes là au moment d'une étincelle, et pourquoi ça ne pourra pas s'accumuler? Parce que justement, ces bâtiments sont carrément, il y a des ouvertures, des courants d'air, etc. Enfin, c'est, voilà. Et s'il n'y a pas d'accumulation d'hydrogène, il ne peut pas y avoir. Il va partir. Voilà. Alors, on me dit que ça y est, l'heure a tourné. Je veux juste vous citer une phrase en conclusion. Bon, il y a des choses, je vous passerai tout ça. Hein. Une phrase de quelqu'un que vous connaissez sûrement, que vous n'avez peut-être pas lu. Elle est connue. Hein. Alors, il parlait des gisements de houille épuisée. Mais après, il y a eu le pétrole et après, il y a eu... Mais dans l'île au trésor, le capitaine Nemo, découvert par les gens qui sont sur l'île, je crois que c'est des enfants, hein, qui disent, mais il y a le sous-marin qui est dans une grotte dans l'eau, qui est à moitié sorti, il y a de la lumière, enfin. Et d'où il sort son énergie? Bah de ça, de l'hydrogène, d'une pile à combustible finalement. Et Jules Verne, en 1874, avait pensé que c'était l'énergie de l'avenir. Et encore une fois, je pense qu'il ne s'était pas trompé. Voilà. Alors, vous voyez, je peux parler longtemps, hein, je suis désolée.
Des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Portant sur l'hydrogène.
Si vous voulez trouver du travail dans l'hydrogène, il y aura de quoi faire.
Dans tout ce que vous avez dit, la production d'électricité est essentielle. La façon dont on produit l'électricité est essentielle.
Donc, l'électricité, mais comme... Ah ben oui, bien sûr, mais c'est là que c'est tout l'enjeu. Parce que sinon, de l'hydrogène gris, on sait en faire. De l'hydrogène avec l'électricité sale, on sait en faire. Tout l'enjeu, c'est de faire avec des procédés propres, c'est de raisonner autrement. Et c'est un élément du mix, et en plus, comme je vous ai parlé par exemple des procédés biomasse, il y a peut-être aussi d'autres façons d'aller chercher dans ces procédés biomasse propres ou dans le sous-sol. Le plus gros gisement, c'est le Mali, ça tombe bien. Hein. Mondial.
D'autres questions ?
Le modèle allemand au niveau de l'hydrogène, c'était
une mauvaise pioche pour eux. Alors là, ils sont. Alors l'Allemagne, qui a fait les pieds et les mains pour que le nucléaire français ne soit pas retenu comme une énergie bas carbone dans la taxonomie d'hydrogène, pour produire de l'hydrogène, alors, ça a finalement été accepté. Pardon ? Alors ça, c'est bon, histoire de lobby, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ouais. Par contre, les Allemands, ils avaient juste prévu de tout importer de Russie. Donc là, c'est tout arrêté. Donc ils n'ont pas le nucléaire, ils ont plus le gaz russe, le gaz tout court, et l'hydrogène, ils n'ont pas de Russie non plus. Donc ils sont
assez. Ils pensaient produire l'hydrogène dans des pays avec des panneaux solaires. Transporter l'hydrogène.
L'hydrogène, en fait, on peut le transporter, comme je vous l'ai dit, dans des canalisations, mais il y a un projet qui s'appelle AIFEN. Voilà. Alors, c'était 50 milliards en 2050, maintenant, ils pensent que c'est plutôt proche des 100 milliards, mais il y a déjà des petits bouts qui se construisent avec des hydrogénoducs, donc des dédiés. Vous avez le projet Mosaïque en Moselle, entre le Mosaïque, parce que c'est trois branches avec le Luxembourg, l'Allemagne et puis la France, mais le réseau, il est déjà identifié. Avec du stockage intermédiaire dans des cavités salines pour réalimenter. Quand vous avez un réseau, il faut recharger. Hein. Donc, les cavités salines, la plus proche pour nous, c'est Étré, c'est dans l'Ain. Il y en a une à Saint-Avold, il y en a une du côté de Manosque, il y en a une à Lac, il y en a. Voilà. Et pourquoi des cavités salines ? C'est l'extraction du sel gemme avec de l'eau. Et ces cavités, elles sont en forme de gouttes d'eau en général. Et si le sel gemme était là, c'est parce qu'en fait, autour, il y a de la marne qui rendait étanche. Donc on peut mettre le gaz hydrogène, et il y aura des essais, et Étré va commencer les essais, là ils ont commencé à charger, pour voir que cet hydrogène ne part pas, voilà.
Merci, on va arrêter là, je laisserai la discussion après, voilà. Entre vous, pour clôturer.
Voilà, vous avez sur la droite, on va vous amener de la documentation, vous pouvez venir en chercher, elle est en libre service, puis Régis Baudrillard va terminer. Conclusion.
Si vous cherchez des stages, des projets, etc., comme j'ai des contacts avec des entreprises, vous pourrez me contacter, je vous mets...
Bien. L'hydrogène peut intéresser tant les matériaux que l'informatique électronique,
tout.
Car voilà. Il y a énormément de gestion et de contrôle.
Donc, juste pour terminer, merci Nathalie pour cet exposé, de leur faire partager ton enthousiasme. On le sent, hein, que l'hydrogène est technique, qui est passionné. Ça nous a permis d'avoir un éclairage complet, que ce soit sur la production, que ce soit sur les infrastructures à noter, parce que je pense que c'est l'un des défis majeurs, et sur les différents usages, et comme tu l'as